Donc, aujourd'hui, on va reprendre un peu, là, ça fait un moment que, ça fait quelques temps qu'on n'a pas eu l'occasion de parler sur le combat spirituel. Donc, les clés de la victoire. Donc, on est dans le troisième paragraphe de ces clés de la victoire. Donc, depuis quelques semaines, on a commencé à prendre ce thème du combat spirituel parce qu'on croit qu'on a besoin d'être équipé, d'être formé, fortifié dans notre foi pour pouvoir avancer avec le Seigneur. Mais surtout, devant tout ce qui se passe autour de nous, on a besoin de discerner c'est quoi le combat spirituel et comment le faire aussi. Vous allez voir encore aujourd'hui à travers les clés comment que nous pouvons remporter des victoires. Il n'y a rien de magique, il n'y a rien d'avoir de grandes instructions ou enseignements. C'est simplement d'entendre, de connaître aussi, de voir à travers la parole ce que le Seigneur nous donne aussi comme force, comme puissance, comme autorité. On sait, comme on l'a vu dans Jean chapitre 10, verset 10, que justement le diable, Satan, l'ennemi, vient pour voler, pour tuer, pour détruire. Donc il ne vient pas juste pour nous chatouiller, pour nous faire de temps en temps un peu mal ou nous faire tomber. Il vient vraiment pour voler, pour détruire notre vie, voler notre espérance, pour tuer notre âme. Voilà pourquoi que le Seigneur Jésus-Christ est venu sur terre, mourir sur la croix, pour nous donner la vie. Et à travers sa vie, il nous donne aussi les clés de victoire aussi, face aussi à l'ennemi. Donc, dans le dia suivant, Emmanuel Maillen, donc un pasteur francophone, dit dans son livre sur le combat spirituel, le combat spirituel est l'opposition que les chrétiens ou celui qui s'approche de Christ rencontre face aux puissances des ténèbres. La victoire sur ces puissances se trouve dans le Christ seul, ainsi que dans l'aide que des personnes compétentes et éclairées peuvent apporter sur ces réalités spirituelles. Donc, dès que nous sommes chrétiens, dès que nous sommes un chrétien qui désire marcher réellement avec le Seigneur, nous avons cette opposition par l'ennemi. Nous avons cette attaque, ces attaques, ces autres oppositions par Satan pour nous détruire, pour voler notre espérance comme nous l'avons vu. Voilà pourquoi qu'on a besoin d'avoir cette victoire dans le Christ seul. Et voilà pourquoi sur la photo que vous voyez comme la clé de voûte, donc une pierre qui est taillée pour tenir l'édifice vraiment. Ici, il n'y avait pas besoin d'avoir une grosse armature, pas besoin de béton. Simplement, cette pierre en biais permettait que toute la structure tienne bien. On voit aussi que dans la parole de Dieu, Jésus-Christ va dire qu'il est la pierre angulaire, la pierre la plus importante. Donc, la première clé que nous retrouvons pour avoir la victoire, c'est Jésus, c'est Christ seul, comme il est dit aussi dans cette phrase. C'est Jésus-Christ lui-même qui est la clé de vous, qui nous permet vraiment de pouvoir accéder à la victoire du Seigneur. Donc, on voit que dans le Nouveau Testament, que c'est vraiment le thème principal, c'est que Jésus-Christ est le Seigneur. C'est lui, Jésus-Christ, le règne, qui amène la cohésion, qui amène la solidité, qui amène vraiment la puissance pour pouvoir accomplir ce combat et de pouvoir le gagner devant l'ennemi. Alors, quelles sont les autres armes que le Seigneur nous donne pour pouvoir avoir ce combat spirituel? Voici donc d'autres clés qu'on a vues la dernière fois. Prochain diable, donc, la deuxième clé qu'on a vue, c'est l'autorité du croyant. Ça, c'est une clé qui est importante, qui est essentielle. Il y a trop de chrétiens qui ne réalisent pas ou qui ne savent pas qu'ils ont une autorité. Ils ne savent pas qu'ils sont réellement en Christ. Ils connaissent très peu leur héritage spirituel. Oui, ils savent qu'ils sont chrétiens, oui, ils savent que Dieu a fait de grandes choses dans leur vie. Mais Dieu a donné beaucoup plus que juste simplement pardonner nos péchés, nous donner notre nouvelle vie. Il nous donne une autorité qui permet justement de gagner sur l'ennemi. Luc chapitre 9, verset 1-2, vous pouvez noter sur vos cahiers pour que vous puissiez méditer encore ces textes tout à l'heure. Luc chapitre 9, verset 1 et 2 qui dit « Jésus réunit les douze et leur donna le pouvoir et l'autorité de chasser tous les démons et de guérir les malades. Ensuite, il les envoyait proclamer le règne de Dieu et opérer des guérisons. » Donc, on sait que Jésus-Christ est la toute-puissance puisqu'il est Dieu. Mais Jésus-Christ, lorsqu'il est venu sur terre, il n'a pas simplement par lui-même démontré la puissance. C'est vrai qu'il avait énormément de miracles, il a chassé des démons. Mais il a voulu aussi déverser cette puissance sur les autres, sur ses disciples. Il l'a fait en premier sur les 12 disciples qui sont venus, les apôtres qui sont venus un peu comme la base de l'Église, le corps du Christ. Mais plus loin, on peut le voir aussi qu'il le fait aussi avec 70 autres disciples. On peut lire ça dans Luc chapitre 10, verset 1. Et à la même fois encore, Jésus va leur donner le pouvoir de guérir les malades, de chasser les démons. Et on sait que si vous lisez justement dans Luc 10, vous allez voir que lorsque ces disciples reviennent vers Jésus, ils sont tous ébahis, tout le monde tellement de joie, dit Seigneur Jésus, on a vu tellement de belles choses. Même les démons étaient soumis, mais on a vu des choses extraordinaires se passer. Et la réponse de Jésus, qui disait qu'il voyait Satan comme descendre, tomber du ciel comme un éclair, parce que sa puissance de Satan ne pouvait rien que devant la puissance de Dieu. Alors aujourd'hui, nous sommes encore des disciples de Jésus-Christ. Même si nous ne sommes pas les premiers disciples, mais ce pouvoir, cette puissance de Dieu pour guérir, pour chasser les démons, pour guérir les malades, pour pouvoir résister, combattre l'ennemi, nous avons aussi cette autorité. Nous sommes chacun de nous des disciples de Jésus-Christ. Nous avons cette autorité qui nous était donnée par notre Seigneur. Alors il faut utiliser cette autorité lorsque nous avons besoin. Donc même on disait, de même que le mandat missionnaire vaut pour tout chrétien, Jésus-Christ a dit que tout chrétien doit pouvoir aller partager l'évangile autour de lui. L'autorité pour libérer les captifs vaut pour tout enfant aussi de Dieu. Chacun de nous, nous avons cette autorité. Ce n'est pas simplement juste quelques personnes les plus intentionnées. La troisième clé que nous avions vue aussi, c'est la parole de Dieu. Elle est une arme précieuse et puissante. On peut souvent se laisser corrompre par Satan qui utilise la parole de Dieu pour nous tromper. Et souvent, on va dire, ah, mais c'est le Saint-Esprit qui me parle, puis réellement, c'est le diable. Rappelez-vous un peu l'histoire qu'on avait regardée de Jésus lors de la tentation. 40 jours de jeûne et de prière, et là, Satan est venu le tenter. Et là, Satan a utilisé la parole, mais il a utilisé la parole d'une façon fausse. Il a enlevé de son contexte. Et là, on voit comment que Jésus-Christ utilise aussi la parole, mais dans son véritable contexte. Donc, le premier point qu'on voit dans la parole de Dieu, c'est que Satan et son équipe connaissent la parole de Dieu. Ce sont des anciens anges, donc ils connaissent qui est Dieu, ce que Dieu a dit, ce que Dieu a fait. Et voilà pourquoi que justement, ils essayent de tromper les disciples qui ne sont peut-être pas assez alertes, qu'on ne discerne pas, pour essayer de nous faire tomber, pour nous dire des paroles, mais qui ne sont pas réellement des paroles de Dieu. Le deuxième point, le remède est d'être ancré dans les Écritures pour pouvoir résister à l'ennemi, pour pouvoir discerner si c'est des paroles de Dieu qui viennent de Dieu ou si c'est des paroles qui viennent de l'ennemi. Nous avons besoin d'être ancrés dans les Écritures. Lorsqu'on connaît les Écritures, lorsqu'on les médite, lorsqu'on les met en pratique, à ce moment-là, nous pouvons les dire, comme Jésus l'a dit devant Satan. Jésus n'a pas commencé à essayer d'expliquer à Satan, de dire, écoute, tu sais que je suis fils de Dieu, tu n'as pas de pouvoir sur moi. Non, il a simplement prononcé les paroles de Dieu. Et devant la parole de Dieu, l'ennemi ne peut pas tenir, parce qu'elle est toute puissante, la parole de Dieu. Elle est Dieu. Voilà pourquoi on a besoin de comprendre, de lire la parole, afin que nous puissions la brandir, afin que nous puissions la dire, nous puissions la proclamer avec foi, avec audace, devant les ennemis, devant les personnes qui veulent nous faire du mal, devant le Satan qui veut nous troubler. Donc aujourd'hui, regardons deux autres clés qui sont très importantes. Peut-être que vous allez voir que peut-être c'est des clés que vous trouvez un peu spéciales, mais ce sont des clés que Jésus-Christ nous donne. La quatrième clé, c'est le nom de Jésus. Le nom de Jésus est l'arme la plus puissante. Le nom de Jésus est l'arme la plus puissante. Si un de ses disciples ou fidèles fait appel à son nom, il intervient. Puisque nous sommes les disciples de Jésus-Christ, puisque nous avons le Saint-Esprit en nous, nous vous pouvons appeler à Jésus-Christ et il va intervenir, il va nous écouter et il va agir. Donc même si nous sommes faibles, même si nous sommes imparfaits, il se déplace Jésus-Christ pour nous porter aide à la personne qui fait appel à nous. Lorsque vous appelez Jésus, vous faites donc appel à sa personne. Vous ne faites pas appel à quelque chose de mystique ou comme ça, vous avez entendu. Donc vous faites appel à la personne de Jésus-Christ. Donc le premier point, le nom de Jésus est puissant. Et regardez dans Luc chapitre 4, verset 36. Luc chapitre 4, verset 36. Il eut un moment de stupeur. Ils se disaient tous les uns les autres. Quelle est cette parole? Il donne des ordres aux esprits saints. avec autorité et puissance et ils sortent. Ils donnent des ordres aux esprits saints avec autorité et puissance et ils sortent. Les gens autour de Jésus, lorsqu'ils voient les miracles, lorsqu'ils voient la puissance de Dieu se déverser sur les malades, ceux qui étaient emprisonnés par des démons, par des maladies, etc., ils peuvent simplement reconnaître que cet homme, ce n'est pas simplement juste un simple prophète, mais c'est quelqu'un qui avait une autorité, qui avait une puissance. Donc nous connaissons tous Jésus-Christ, notre Seigneur, et on le lit à travers tous les récits de l'Évangile, de comment cette puissance elle est là. Et nous sommes convaincus justement de cette puissance. Mais cette puissance n'est pas restée simplement sur Jésus. Elle est transférée, comme nous l'avons vu, à tous ses disciples. Et des disciples étaient des hommes comme nous, étaient des personnes comme nous. Ils n'avaient pas plus de grandeur que nous, plus de mérite ou de connaissance. Ils étaient même en formation devant le Maître, devant Jésus. Donc Jésus n'a pas fait simplement d'instruire ses disciples et leur montrer la puissance de Dieu à travers Jésus. Non, il va leur donner en action, il va leur dire « allez-y en action ». Il va démontrer que cette puissance n'est pas réservée simplement à lui, le Maître, ou bien peut-être au meilleur chrétien, à tous ceux qui sont les plus grands. Non, Jésus donna de ce pouvoir à ses 12 disciples, puis à ses 70 autres disciples, et ensuite il la donna à tout le monde. Regardez Actes chapitre 1, verset 8. Lorsque nous avons entendu cette parole lors de la Pentecôte, il est dit, mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Vous recevrez une puissance. Cette puissance que nous avons en nous, elle n'est pas simplement pour nous dire que pour pouvoir marcher d'une façon juste avec le Seigneur, mais cette puissance, elle est pour qu'on puisse la déverser, qu'on puisse aussi avoir cette autorité devant aussi l'ennemi qui veut nous tenter, qui veut aussi nous faire tomber. Donc, la clé de la puissance du don de Jésus-Christ ne se trouve pas dans votre expérience de votre vie chrétienne, dans votre inexpérience. Elle ne se trouve pas non plus dans votre capacité à convaincre qui ce soit. La puissance se trouve en Jésus seul. Son nom est redoutable à travers la terre. Et voilà pourquoi que les démons encore aujourd'hui tremblent devant lui. Donc, voilà pourquoi que nous devons utiliser le nom de Jésus avec foi, avec audace. Sachant qu'il est Dieu. Sachant qu'il règne même sur le royaume de Satan. Son esprit est en nous. Son esprit nous permet de marcher dans les traces de Jésus. Mais il nous permet surtout d'accomplir de grandes choses pour le Seigneur. D'avoir la victoire devant l'ennemi, devant les démons qui nous assaillent. Alors oui, c'est vrai que devant les défis, devant les épreuves, devant les attaques, nous devons proclamer le nom de Jésus. Le nom de Jésus qui sauve, le nom de Jésus qui fortifie, qui délivre, qui libère. Nous ne devons pas avoir peur de le dire et de l'utiliser. Ce n'est pas vraiment une solution magique dans le sens qu'on dit un mot et que tout va changer et que nous allons avoir la victoire. Mais le faire avec foi, le faire avec audace, en toute humilité, en disant que ce n'est pas nous, mais c'est seulement le nom puissant de Jésus-Christ. Mais regardez le deuxième point qui est très important. Ne faites pas du nom de Jésus un mantra à réciter. L'auteur du livre, justement, Les clés du combat spirituel, explique cela. Il dit qu'il va beaucoup dans différentes églises, des groupes de prière, où les chrétiens répètent sans cesse le nom de Jésus. Jésus, 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 Jésus. On dit 15 fois, 20 fois, Jésus, Jésus. Et ils ont l'impression que peut-être à force de répéter le nom de Jésus, c'est comme s'il va venir. C'est comme qu'à force de s'imaginer qu'ils vont l'appeler, ils vont enfin se réveiller, descendre de son nuage, intervenir. Ce n'est pas un récital qu'on fait pour essayer de faire des formules, de dire Jésus, 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 puis à un moment donné que Jésus va apparaître. Il n'est pas en vacances en Floride qu'il a besoin qu'on l'appelle plusieurs fois pour qu'il agisse. On doit faire attention parce que souvent, des fois, on prend des façons un peu mystiques de la parole pour essayer de faire des choses. Et on le voit dans beaucoup de groupes, comment il faut répéter beaucoup de choses, beaucoup de paroles pour essayer de faire que Dieu intervienne, que Dieu agisse. Non, ce n'est pas ça. Simplement d'annoncer Jésus-Christ, simplement de prononcer le nom de Jésus-Christ. Cette manière de considérer le nom de Jésus en répétant plusieurs fois, Ça relève davantage justement des religions orientales, de la magie, de la superstition, qui, à force de répéter, vont croire que les choses vont avancer. Le nom de Jésus n'est pas un nom magique. Vous devez vous adresser avec lui avec humilité. Il est votre maître. C'est lui qui est puissant, pas vous. Donc oui, le nom de Jésus est disponible pour chaque croyant qui agit avec foi ou audace pour délivrer les attaques de l'ennemi. Et nous devons le voir, non, de faire attention, de ne pas utiliser ce nom à outrance, comme un mantra, comme une solution magique pour essayer d'avoir la victoire sur l'ennemi. L'ennemi sait très bien. S'il vous voit arriver, si vous n'êtes pas sincère, si vous n'avez pas cette foi, si vous essayez simplement de répéter ce que vous avez entendu à gauche, à droite, ou ce que vous entendez sur YouTube ou sur Internet par certains prédicateurs, l'ennemi va rigoler de vous parce qu'il va voir que la puissance de Dieu n'est pas là. Simplement faire preuve de foi, ayez confiance. On n'a pas besoin, comme on l'a dit, de répéter 36 fois et de crier. Il n'est pas sourd. On n'a pas besoin de crier de plus en plus fort pour croire que Jésus va venir. Lorsque même si on impose nos mains ou on demande, on prie sur une personne, on n'a pas besoin de crier sur la personne. On n'a pas besoin de crier sur la personne. Jésus nous entend. Même si on ne parle pas, ouvertement dans notre cœur, Dieu nous entend. Mais des fois, on a l'impression que si on crie plus fort, là, c'est comme si l'ennemi va trembler plus fort. Il va vous voir, puis il va vous dire, crie de plus en plus fort, tu vas casser ta voix, mais ça ne va rien changer d'autre. Il faut aller avec foi. Voilà pourquoi que c'est vrai que certains chrétiens ont plus, peut-être, de, je ne veux pas dire de réussite, mais ils ont plus de foi, d'audace à voir Dieu agir à travers leur vie. Parce qu'ils ont cette humilité, parce qu'ils ont cette foi de prononcer le nom de Jésus et ils voient des guérisons parce qu'ils font simplement d'obéir à la parole de Dieu. Donc on voit que vraiment, Dieu nous permet que chacun de nous, en tant que chrétien, nous pouvons appeler le nom de Jésus. Ouvrons notre Bible justement dans Actes chapitre 3, où on va voir justement la puissance du nom de Jésus. On voit justement dans Actes 3, Pierre et Jean monter au temple pour prier. Et là, ils voient un malade, un infirme qui demande au monde. À chaque jour, mettaient cet homme devant le temple pour demander au monde parce qu'il avait besoin pour pouvoir manger parce qu'il était infirme. Pierre n'avait pas d'argent à lui donner. Mais il lui a donné quelque chose de beaucoup plus important et payant. Il lui donnait la guérison. Regardez, Actes chapitre 3, verset 6. Mais Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Là, vous ne voyez pas qu'il a commencé à prier « Jésus, 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 par ton nom, Jésus, viens » et comme ça, puis tout ça en récital. « Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Jésus-Christ, Pierre va demander la puissance de Jésus pour guérir ce malade. C'est tout simple, mais tellement efficace. Pierre n'a pas eu besoin de dire 3 fois, 10 fois le nom de Jésus pour avoir la guérison. Simplement prononcer le nom de Jésus avec humilité, avec foi, avec une confiance que le Seigneur allait lui donner la puissance de guérison. Et Pierre va lui expliquer son geste, ou plutôt de pourquoi le suivra un peu plus loin. Regardez Actes chapitre 3, versets 12 et 16. On va lire ces versets. Actes chapitre 3. Versets 12 à 16. Quand Pierre vit cela, il s'adressa à la foule. « Hommes israélites, qu'avez-vous à vous étonner ainsi de ce qui vient de se passer? Pourquoi vous fixez-vous avec tant d'insistance, comme si c'était comme si c'était nous qui, par notre propre pouvoir, notre propre piété, avions fait marcher cet homme? Non, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos ancêtres, qui vient ici de manifester la gloire de son serviteur Jésus. » Ce Jésus que vous aviez livré à Pilate et renié devant lui, alors qu'il était décidé de le remettre en liberté. Prochain diable. Oui, vous avez renié celui qui était saint et juste. À sa place, vous avez demandé comme faveur la libération d'un meurtrier. Ainsi, vous avez fait mourir l'auteur de la vie. Mais Dieu l'a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. Verset 16. Et c'est parce que nous croyons en Jésus que la puissance de son nom a rendu à cet homme que vous voyez, que vous connaissez, la force de se tenir debout. Oui, cette foi qui est efficace par Jésus a donné à cet homme une parfaite guérison, comme vous pouvez tous vous en rendre compte. Donc ce récit démontre que ce n'est pas la puissance de l'humain ou du chrétien qui permet de guérir, de chasser les démons. Pierre va le dire au verset 12 que ce n'est pas la puissance de l'homme ou de même. Mais il le dit au verset 13 que c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Pour les Israélites, c'était important de reconnaître que c'était le Dieu des ancêtres qui avait formé le peuple d'Israël. Celui qui s'est aussi manifesté à travers Jésus-Christ le Fils. Donc Pierre va expliquer que c'est à cause qu'ils croient en son nom, en Jésus, comme il est dit dans le verset 16, qu'il a pu faire ce miracle, cette guérison. Pierre croit en Jésus et en sa puissance, et qu'il va s'adresser justement à cet infirme avec foi et confiance dans la puissance de Jésus-Christ qui va lui donner la guérison. Voilà pourquoi il faut en premier croire en Jésus et en sa puissance. Il ne faut pas simplement juste croire que oui, Dieu est là, que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il faut croire que Jésus-Christ est vrai, nous a sauvés, nous a pardonné nos péchés, mais il nous a donné cette autorité, il nous a donné cette puissance pour pouvoir aussi agir dans son nom. Alors le nom de Jésus encore aujourd'hui nous est donné. Et désire que nous puissions l'utiliser avec foi, avec confiance, dans une humilité de dire que ce n'est pas par notre propre force, mais uniquement par sa puissance, pour accomplir le miracle. Dieu veut utiliser chacun de nous. On n'a pas besoin, comme l'a dit, d'avoir tant d'expérience. On n'a pas besoin d'avoir fait tant de cours. On n'a pas besoin de passer un examen pour pouvoir accomplir de grandes choses en prononçant le nom de Jésus-Christ sur une personne. Mais avec foi, avec simplicité, demandez et Dieu va agir. La prochaine clé que nous allons voir, c'est le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Donc, cette clé de victoire est étroitement liée à la précédente. Parler du sang de Jésus comme l'une des clés peut paraître un peu bizarre. Que vient faire le sang de Jésus-Christ ici? Donc, on sait que le sang est mentionné dans la parole de Dieu. Justement, le sang représente la vie. Dans l'Ancien temps, vous avez vu plusieurs fois que l'offense devait être lavée, pardonnée. Il fallait que le sang coule. Il fallait que quelqu'un donne la vie. Donc, souvent, même avant que le peuple d'Israël, il prenait un animal pour le sacrifier. Et lorsque le sang coula, c'était comme si cet animal prenait la place de l'humain, de la personne, pour pouvoir prendre le péché, pour pouvoir demander la grâce de Dieu. Et on le voit justement dans toutes les lois que Dieu donna à Moïse. Comment cette idée de substitution, justement, comment qu'un animal peut prendre la place de l'humain pour le pardonner. Et à chaque fois, il fallait à chaque fois faire un autre sacrifice. Hébreux chapitre, justement, Hébreux chapitre 5, 9 plutôt, Hébreux chapitre 9, verset 22, il dit, « En effet, selon la loi, presque tout est purifié avec du sang, et il n'y a pas de pardon des péchés sans que du sang soit versé. » Donc le sang était le seul moyen d'obtenir le pardon de Dieu. Il avait ce rôle purificateur. C'est pourquoi que justement, Jésus-Christ, lorsqu'il vient sur la terre, a cette mission pour aller jusque sur la croix, de verser le sang pour une fois pour toutes, pour nous. Depuis plus de 2000 ans, on n'a plus besoin de sacrifier des animaux pour demander la grâce et le pardon de Dieu. Jésus-Christ l'a fait une fois pour toutes. Celui qui place sa confiance dans ce sacrifice, dans le sang versé par Jésus-Christ, reçoit la purification immédiate, justement, de tous ses péchés. Il est pardonné. Désormais, justement, grâce à Jésus, il le voilà qui est réconcilié avec Dieu. Et on le voit, justement, dans 1 Jean, chapitre 1, verset 7. 1 Jean, chapitre 1, verset 7, qui dit, « Parce que Jésus, son Fils, a versé son sang, nous sommes purifiés de tout péché. » Voilà pourquoi que, justement, régulièrement, nous faisons la Sainte Cène, en se rappelant que le sang de Jésus-Christ, encore une fois, celui qui a versé pour nos péchés, ce que ce sang coule encore aujourd'hui, nous devons nous rappeler que ce sang forfait est fait, que jour après jour, on peut demander pardon, on peut demander que le sang de Jésus-Christ encore nous purifie, nous lave de nos péchés. Alors, comment utiliser le sang de Jésus-Christ? Comment faire appel au sang de Jésus-Christ comme une clé de victoire dans les combats? Donc, le premier point, c'est croyez que le sang de Jésus est efficace pour vous protéger. Bien des chrétiens, justement, sous-estiment ou ne connaissent pas l'importance, l'efficacité du sang de Jésus pour nous pardonner et nous protéger contre l'ennemi, contre Satan et ses démons. Ce que Jésus a fait sur la croix a condamné Satan à être enchaîné pour l'éternité. Jésus a vaincu une fois pour toutes le Satan et donné la victoire par sa résurrection. Même si Satan continue à travailler, il est enchaîné, mais il continue à résister, il sait qu'il reste un peu de temps. Et voilà pourquoi il continue encore à nous tenter, qui continue encore essayer de nous faire tomber, à essayer de nous faire aller en tentation. Mais il sait que son temps est limité. Apocalypse chapitre 12, verset 11. Apocalypse chapitre 12, verset 11, il dit: ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort. Nous devons croire, être certains que le sang de Jésus-Christ, qui nous purifie, c'est vrai, nous pardonne nos péchés, mais bien plus, il nous donne la permission, le sang, de nous permettre de vaincre Satan. Non pas encore par nos propres forces, mais par le sang de Jésus-Christ qui a été versé il y a plus de 2000 ans. Ce cadeau que Jésus-Christ nous a donné nous permet encore aujourd'hui de croire et de dire devant l'ennemi qui nous attaque, qui nous assaille, que le sang de Jésus-Christ l'a vaincu une fois pour toutes sur la croix et que le sang de Jésus-Christ est encore là pour apporter protection et puissance. Le deuxième point, placez-vous sous la protection du précieux sang de Jésus-Christ par la prière. Il faut qu'on place nous-mêmes ainsi que nos proches sous la prière. Faites-le tous les jours, parce que le diable et les démons, ils travaillent tous les jours. Même le dimanche, il n'y a pas de congé pour eux. Lorsqu'on se place sous la protection du sang de Jésus-Christ, c'est comme si vous tiriez sur vous une couverture spéciale. Une couverture qui vous garde, qui vous protège, qui vous délivre des attaques de l'ennemi. En invoquant le sang de Jésus-Christ, vous faites appel à son œuvre à la croix, à son précieux sang versé. Et c'est ce sang qui parle, qui témoigne pour vous. Voilà pourquoi l'importance de parler sous la protection de ce sang de Jésus-Christ, par nos prières. Demandez à notre Seigneur de rester sous ce sang qui purifie, qui nous sanctifie pour être de plus en plus comme Christ. De prier par ce sang, afin de rappeler que le sang versé sur la croix est encore d'actualité pour nous aujourd'hui, pour nous pardonner, pour nous délivrer du péché, mais aussi pour nous délivrer de l'ennemi qui veut nous faire tomber. Il ne faut pas simplement juste prier par le sang de Jésus-Christ lorsque nous sommes attaqués, lorsque nous subissons les épreuves. Mais à tous les jours, nous devons prier et invoquer le nom puissant de Jésus-Christ et le sang de Jésus-Christ pour nous protéger et qui nous donne la victoire sur le péché, sur l'ennemi qui veut nous détruire. Alors cette semaine, mettons en pratique ces deux clés dans notre vie et celle de nos amis que Dieu place devant nous. Allons faire une différence par le nom puissant de Jésus-Christ et par le sang purificateur de Jésus-Christ. Qu'on puisse avoir justement cette foi que le nom de Jésus est encore en train de sauver, est encore en train de délivrer, est encore en train de libérer ceux qui sont sous l'emprise de Satan, ceux qui sont sous l'emprise des démons, sous l'emprise du mal ou de d'autres esprits. D'avoir la foi que le sang de Jésus-Christ peut encore aujourd'hui, quelles que soient nos situations, quelles que soient nos épreuves, nos attaques que nous subissons, nous délivrer et nous rendre victorieux comme Jésus l'a fait il y a plus de 2000 ans sur la croix. La semaine prochaine, justement, nous allons mettre en pratique cette parole et ces clés et les autres clés que nous allons voir la semaine prochaine, en priant les uns pour les autres, en demandant, en intercédant pour que nous puissions vivre la délivrance de notre Seigneur. On a besoin de pouvoir mettre ces choses en pratique, même si peut-être ce n'est pas nos standards, peut-être on n'a jamais prié par le sang de Jésus-Christ, on n'a jamais peut-être demandé le nom puissant de Jésus-Christ. Mais Dieu nous donne ses armes, Dieu nous donne ses clés pour que nous puissions les utiliser, afin que nous puissions être victorieux. L'ennemi sait très bien nous distraire, l'ennemi sait très bien, même à la sortie de ce culte, il va vous attendre, il va vous mettre distraire, il va peut-être vous mettre des pensées qui sont obscures, il va peut-être commencer à parler, essayer de parler avec vous pour vous enlever cette espérance. Voilà pourquoi on a besoin de prendre ses clés et de pouvoir, par le nom puissant de Jésus-Christ, par le sang de Dieu, de Jésus-Christ qui nous purifie, qui nous sanctifie, qui nous lave, ce sang qui est écoulé pour nous donner la vie, que nous puissions avoir des victoires. Courbons notre tête et prions. Seigneur, on veut te remercier pour cette occasion que tu nous donnes aujourd'hui, de nous rappeler, Seigneur, ces clés de victoire que tu nous donnes jour après jour. Seigneur, nous voyons que ce n'est pas nos capacités, ce n'est pas notre force, ce n'est pas notre intelligence
qui nous permettent de pouvoir vaincre l'ennemi. Le Seigneur, tu nous donnes des clés, tu nous donnes des armes. Nous avons vu ta parole, nous avons vu que nous avons l'autorité en tant qu'enfants de Dieu. Seigneur, aujourd'hui, tu nous donnes aussi que ce nom de Jésus est puissant. Nous pouvons utiliser ce nom devant les attaques de l'ennemi pour dire Jésus-Christ est victorieux. Jésus-Christ a vaincu une fois pour toutes l'ennemi à la croix. Et je proclame Jésus-Christ devant mes situations, devant mes épreuves, devant les attaques. Seigneur, que je puisse aussi prier pour mes frères et sœurs, prier pour ceux qui sont autour de moi, qui vivent des situations difficiles, et invoquer le nom puissant de Jésus-Christ, qui continue de sauver, qui continue de délivrer. Seigneur, tu nous rappelles aussi comment que ton sang est victorieux. Ce sang qui a coulé une fois pour toutes pour nous pardonner, pour nous donner la vie. Mais ce sang a aussi permis, à travers ta résurrection aussi, de condamner l'ennemi à être enchaîné et que tu allais avoir la victoire sur Satan. Et tu nous donnes cette victoire sur notre ennemi, non pas par, comme on a dit, notre force, non pas par parce que nous sommes meilleurs, mais uniquement par ton nom puissant et par ton sang qui est versé. Seigneur, permet que nous puissions utiliser ces clés pour pouvoir gagner des batailles devant nous. Nous savons que tout autour de nous, l'ennemi est en train de s'acharner sur les chrétiens, de peut-être refroidir les personnes, de peut-être les détourner de la vérité, afin de pouvoir mieux les prendre, afin de pouvoir aussi continuer le travail pour pouvoir amener des idées fausses, pour éloigner ces chrétiens, ces personnes de ton royaume. Seigneur, nous voulons vous lever pour nous et pour nos frères et sœurs, pour ceux qui sont autour de nous, ceux qui sont captifs, ceux qui sont prisonniers de différentes choses dans ce monde, captifs du péché, captifs de toute cette apparence de ce monde, tout ce que le monde peut offrir, mais qui nous éloigne de toi. Aide-nous, Seigneur, à utiliser ton nom, à utiliser ton sang, afin que, Seigneur, nous puissions avoir des victoires pour toi. Donne-nous cette foi, donne-nous cette audace de croire simplement que ce que tu nous dis dans ta parole est la vérité et que nous pouvons l'utiliser avec force, avec persévérance devant ce qui se passe, que nous allons avoir une victoire. Seigneur, aide-nous à discerner comment le faire, afin que ce ne soit pas, Seigneur, simplement juste comme on a dit, un mantra ou simplement une récitation ou certaines prières qu'on fait d'une certaine façon pour essayer d'avoir la puissance de Dieu. Tu nous demandes simplement avec humilité, avec simplicité, d'utiliser ton nom et avec vérité. Alors que, Seigneur, nous puissions discerner. Nous puissions discerner, Seigneur, ce que tu veux nous dire et que nous puissions ne pas avoir peur d'utiliser ton si grand nom, ton nom si puissant, pour que nous puissions accomplir de grandes choses à travers toi. Ça, je te prie pour chaque personne ici présente, soyez sûr ici, en présence, soyez sur Zoom. Seigneur, je te prie que tu connais exactement leur vie, tu connais exactement ce qui se passe, peut-être leurs inquiétudes, peut-être leurs peurs, peut-être leur manque de foi, peut-être devant des circonstances, peut-être qu'ils ont baissé les bras devant l'ennemi qui s'acharne sur eux. Je te prie par ton nom puissant. Je te prie, Seigneur, que tu puisses maintenant, par ton nom, tu puisses, Seigneur, les attirer à toi. Que tu puisses, Seigneur, leur donner un second souffle. Que tu puisses leur donner, Seigneur, le courage, la force de se lever et de pouvoir continuer de marcher avec toi. Que, Seigneur, par ton nom puissant qui a été versé sur la croix, ce sang qui nous a donné la vie, qui nous a donné la vie pour l'éternité, puisse aussi, Seigneur, délivrer chaque personne de toute pensée obscure, de toute, Seigneur, action qui ne te glorifie pas, de toute emprise que l'ennemi pourrait avoir sur eux. Parce que, Seigneur, tu l'as vaincu une fois pour toutes, Seigneur, sur la croix. Et que tu nous donnes la victoire par ton nom puissant. Tu nous donnes la victoire par ta parole. Tu nous donnes la victoire en tant que disciple, parce que nous t'avons à travers le Saint-Esprit en nous. Alors, oui, Seigneur, agis à travers chacun de nous. Permets que, Seigneur, nous puissions marcher avec une nouvelle foi, avec une nouvelle passion pour toi, et que nous puissions remporter les victoires, Seigneur. Nous ne voulons pas, Seigneur, nous baisser les bras devant l'ennemi. Nous ne voulons pas, Seigneur, baisser les yeux devant toutes les circonstances qui se passent devant nous, toutes les personnes qui sont captives,
qui passent par des moments difficiles, Seigneur, donne-nous ce courage, la semaine prochaine aussi, de pouvoir prier pour eux, de pouvoir les remettre par ton nom puissant devant toi, et que nous puissions, Seigneur, avec la persévérance, avec l'humilité que tu nous donnes, de pouvoir aller d'avant, et que nous allons remporter les victoires, Seigneur, en ton nom, dans ton temps à toi. Alors merci, merci pour ces victoires que tu nous donnes, merci parce que nous sommes plus que vainqueurs par ton nom puissant, Seigneur Jésus. Gloire à toi. Amen.